Merci à l'équipe de Louange. On est vraiment, vraiment, vraiment bénis. Ça va bien? On peut prendre place. Je ne sais pas si c'est la fin des classes, mais je me sens comme à la fin des classes lorsque j'étais au secondaire. Je me sens un petit peu fébrile. Ce matin, on continue notre série dans Daniel. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Yannick Étier. Je suis un des pasteurs ici dans l'équipe, dans l'église. Et donc, on continue notre série dans un livre apocalyptique. Le livre de Daniel est un livre historique dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi un livre prophétique. Et donc, il y a une partie qui est très, très narrative, une histoire, tout ça. Et il y a une autre partie qui est vraiment dans un genre prophétique particulier, qui est le genre apocalyptique. Et donc, on est en train de découvrir ça en Église. On est en train de se préparer pour une série qui viendra plus tard, dans la prochaine année, sur le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Mais ce genre-là qu'on trouve à peu près à travers tout l'Apocalypse de Jean, à la fin de la Bible, bien, il y a quelques chapitres dans le livre de Daniel qui sont dans ce genre-là. Et ce matin, j'ai pensé vous donner une illustration pour vous aider à saisir peut-être encore un peu mieux ce genre-là. On est habitué à des histoires. Lorsqu'on va écouter un film, généralement, on va suivre une histoire et puis il y a un début, il y a une fin, il y a une histoire qui est en train de se raconter. Nos vies sont des histoires. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, puis on commence à faire connaissance un petit peu plus. Ce matin, j'ai eu le privilège de passer presque une heure avec quelqu'un, puis il a commencé à me raconter son histoire. Il remontait dans le temps, puis ça suivait, puis plus on avançait, plus j'apprenais à le connaître, plus les choses tombaient en place. Lorsqu'on va dans un livre prophétique qui est dans le genre apocalyptique, ça ne se passe pas exactement comme ça. D'accord? Et c'est important de saisir ça, parce qu'autrement, on peut mal interpréter, mal comprendre, puis à la fin, on est tout mêlé. Une meilleure image qu'une histoire ou qu'une trame narrative suivie, c'est plutôt l'expérience qu'on fait lorsqu'on rêve. Essayez de penser, je sais qu'il y en a qui ont l'impression qu'ils rêvent jamais, il y en a qui rêvent tout le temps, essayez de penser aux nuits où vous vous rappelez là, de comme plusieurs rêves. Et ça ressemble un petit peu à ça dans le sens que vous savez, des fois, t'es en train de rêver, puis là, t'es à un endroit, puis il y a quelque chose qui se passe, puis l'instant d'après, tu peux avoir l'impression, je sais même pas comment ça marche dans le cerveau, mais hop, tout d'un coup, t'es ailleurs, puis peut-être que t'as conscience lorsque t'es là qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé là, mais peut-être pas du tout. Puis après ça, ça se peut, hop, t'es rendu ailleurs encore, puis il y a des impressions, il y a des sentiments, il y a des images, il y a des choses qui reviennent, tu fais des connexions, mais tout n'est pas clair. Est-ce que vous me suivez? Ça ressemble à ça, un rêve. Puis là, tu te réveilles le matin, puis tu essaies de comprendre, OK, y a-t-il un fil là-dedans? Est-ce que j'ai mangé quelque chose hier soir qui fait que j'ai vécu ça? Ah, là, tu fais des liens avec des choses que tu as vécues dans les derniers jours, peut-être pas. Des fois, c'est troublant, des fois, c'est rassurant. Des fois, tu dis, ah, celle-là, j'aimerais ça rester là. Ça ressemble un petit peu à ça, le genre apocalyptique. Et donc, lorsque Daniel a cette deuxième vision, Daniel était habitué d'interpréter les visions pour les autres, mais là, la semaine dernière et cette semaine, bien, Daniel a une deuxième vision. Et c'est lui qui a besoin qu'on interprète la vision pour lui. Et lorsqu'il a cette deuxième vision, vous allez voir, Stéphane va nous lire ça, dès le début, il est comme transporté ailleurs, il est transporté dans la capitale d'un autre royaume à venir. Donc, non seulement il est transporté, si on peut dire, pas physiquement, c'est un rêve, mais il est transporté ailleurs, mais il est ailleurs aussi dans le temps. Il est dans un avenir relativement proche et il voit ce qui s'en vient dans la suite des temps et vous allez le suivre avec ces impressions-là. Il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire la semaine dernière que j'ai trouvé super pertinent et puis je vais essayer d'être sensible à ça. À cause du genre apocalyptique, c'est difficile à suivre les explications, si on n'a pas une bonne idée de la séquence ou des différents personnages, les différents joueurs qui interviennent. Alors, je veux vous encourager, lorsqu'on fait des séries, spécialement comme on fait actuellement, la majorité du temps, c'est ça qu'on fait ici, ce sont des séries suivies. On prend un livre de la Bible, puis on traverse le livre, des fois plus ou moins rapidement, mais on est à travers le même livre. Je veux vous encourager toujours à prendre les devants et à lire le livre, d'accord? Et le commentaire, dans le fond, qui m'a été fait la semaine dernière, c'est, disons qu'avec le genre apocalyptique, c'est encore plus important parce que tu nous donnes des explications, puis on n'est plus sûr de qui tu parles, où est-ce qu'il intervient, c'est quoi exactement. Je vais essayer d'être sensible à ça ce matin, mais je veux vous encourager. La semaine prochaine, on va être dans Daniel 9. Vous pouvez prendre le temps de lire Daniel 9. La semaine d'après, 10, 11, 12. On retourne au genre apocalyptique dans deux semaines. vous voulez avoir lu les trois chapitres, d'accord? Parce que vous allez voir, on va faire vraiment un survol, mais ça se tient ensemble et donc on va faire ça dans deux semaines. On va écouter maintenant la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Daniel au chapitre 8. Je vais vous lire ça dans la nouvelle édition Genève. Daniel 8. La troisième année du règne de Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Je levai les yeux et regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaye. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors, près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui a des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne, entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de sept nations, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance.
Merci Stéphane. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de John Wesley, un prédicateur du 18e siècle en Angleterre que Dieu a utilisé au cœur de grands réveils spirituels en Angleterre. L'histoire est racontée, John Wesley qui est en train de se déplacer, souvent c'était des ministères de prédicateurs itinérants, et donc il était en déplacement pour aller prêcher dans une autre ville à cheval, et puis il a discuté avec quelqu'un sur un chemin. Et cet homme-là lui a posé la question, puisqu'il parlait avec un prédicateur de renom. Il lui a posé la question, il a dit, « Monsieur Wesley, si vous saviez que Jésus devait revenir cette semaine, les chrétiens croient dans le retour de Jésus-Christ, au cas où vous ne le sauriez pas, qu'est-ce que vous changeriez, qu'est-ce que vous feriez cette semaine? » Et puis John Wesley a fouillé dans sa sacoche, et puis il a sorti son agenda, où était inscrit chacun des endroits où il allait être cette semaine-là. Et puis, il a présenté son agenda, puis il a dit, voici ce que je ferai cette semaine. Parce que cet homme-là savait que ses journées étaient consacrées tout simplement à faire ce que Dieu attendait de lui. Et chaque jour, il le vivait comme si Jésus revenait aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quel est votre horaire cette semaine. Si je vous demandais d'ouvrir vos iPhones, vos appareils, votre agenda, puis de regarder quelle est la semaine. Mais posez-vous la question pendant l'exposé ce matin, si vous deviez savoir que Jésus revenait cette semaine, qu'est-ce qui changerait dans votre semaine? Ou est-ce que vous diriez, ma vie est déjà, à chaque jour, consacrée à servir Dieu, dans l'appel que Dieu a placé sur ma vie, en toute simplicité, et je suis prêt à ce que Jésus revienne lorsqu'il le voudra bien. Daniel a eu le privilège dans ce passage-là de connaître au moins en partie la destinée des hommes. C'est tout un privilège, puis il y a cet aspect-là fascinant, je le reconnais dans la Bible, des prophéties et dans un passage comme celui-là, on va voir ensemble, ça peut être vraiment troublant de voir à quel point les prophéties sont précises et des fois elles ont des accomplissements extrêmement précis. Et Daniel a eu ce privilège-là de connaître au moins en partie la destinée des hommes. Et la question que je vous invite à vous poser tout au long de l'exposé, c'est qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec des livres comme l'Apocalypse de Jean, avec les prophéties, nous, comme chrétiens, comme croyants? Ce matin, on va voir ensemble le privilège des serviteurs de Dieu, leur privilège de connaître au moins en partie les choses à venir, la destinée de l'humanité. Et on va voir combien il est important de continuer à servir Dieu humblement et simplement au quotidien. Daniel a une nouvelle vision. On est 2 ans plus tard après sa première vision. Comme je vous disais, il ne passait pas chaque journée avec des phénomènes surnaturels, des choses incroyables. Mais 2 ans plus tard, Daniel est porté dans une autre vision et il lui est donné de voir ce qui est appelé par l'ange Gabriel le temps qui sera la fin ou le temps qui sera leur fin. Une vision d'un temps de la fin. On lit dans les versets 1 et 2, la troisième année du règne du roi Belshazzar, « Moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse. » C'est pour ça que je vous dis, il est transporté dans une autre capitale, dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Et donc, il est transporté dans sa vision. Et dans cette vision-là apparaissent maintenant des animaux, toute une ménagerie qui est là. Un bouc puis un bélier avec des cornes. Au verset 3, on lit, « Je levai les yeux, je regardai et voici un bélier qui se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes. Mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. » Alors si on résume un petit peu la séquence de ce qui se passe ici, de ce qui lui est donné de voir avant d'arriver à l'explication. Daniel est transporté, puis à un certain moment donné, il voit un bouc, un bélier. Je t'ai mêlé moi-même, là. OK, le bouc, c'est la chèvre, le mâle, OK, c'est bon. Bélier, c'est le mouton, le mâle, c'est bon. Fait que on a un bouc qui apparaît là, avec une corne unique, celle-là. Et on a déjà compris jusqu'à présent dans le livre de Daniel que généralement ces animaux-là représentent des royaumes d'hommes, des royaumes terrestres, des empires, comme on en a vu à travers toute l'histoire de l'humanité. Et donc, on n'a pas vraiment d'éclaircissement ici, mais on peut deviner que c'est à peu près de ça qu'il est question. Et ce bouc-là a une corne unique. Et encore une fois, on a vu déjà dans Daniel l'idée que ces cornes-là représentent aussi, en quelque sorte, des royaumes. Parfois des royaumes qui vont sortir des royaumes. D'accord? Et donc, vous avez ce bouc qui est puissant, qui est en train de se diriger dans les quatre directions. Personne ne peut l'arrêter. Probablement un royaume qui est en pleine expansion. Et tout à coup va apparaître un bélier qui va arriver. Où est-ce que je les ai inversés? Est-ce que je les ai mêlés les deux? Et donc va arriver cette deuxième bête-là qui va venir avec cette corne-là et qui va foncer dessus. Et la manière qu'elle nous est décrite, celle-là est hyper rapide. D'accord? Elle vient comme si on l'avait pas vue apparaître. Elle court au-dessus de la surface de la terre et va venir foudroyer de toute vitesse cette première bête-là, sans qu'elle puisse se relever. Probablement un royaume qui en supplante un autre. Et cette deuxième bête-là, bien, va lui pousser quatre cornes, probablement des subdivisions dans le royaume. Et de ces quatre cornes-là, va venir ensuite une qui va prendre plus de place, qui va prendre priorité sur les autres, et de celle-là, une petite corne va apparaître, qui va être particulièrement arrogante à l'égard de Dieu. Jusqu'à présent, dans le récit qu'on a, on a l'impression que ce sont des royaumes d'hommes qui prennent de l'expansion. Il n'y a pas de rien qui est mentionné par rapport à Dieu, par rapport aux saints, par rapport au peuple de Dieu, par rapport au temple ou quoi que ce soit. Mais avec cette dernière corne-là qui apparaît, laissez-moi vous lire précisément les versets juste pour se situer. Et vous pouvez regarder dans vos Bibles avec moi. Au verset 10, « Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel. » Il y a quelque chose qui se passe ici dans le récit où cette petite corne-là devient le centre de cette prophétie-là. On a des royaumes qui s'étendent dans toutes les directions sur la terre et tout d'un coup, au centre de cette prophétie-là, il y a cette petite corne-là qui s'attaque directement au nom de Dieu, au peuple de Dieu, pour autant qu'on peut comprendre, et au temple aussi. Puis en fait, on lit Daniel un petit peu au verset 9, il dit « De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. » Peut-être Canaan, qui était définitivement le plus beau des pays pour Israël, la terre promise, la terre recherchée, leur terre. Mais il y a quelque chose qui se passe ici, je veux juste porter votre attention sur ça. C'est comme si ce moment-là où il y a un royaume d'hommes qui s'attaque directement au nom de Dieu, ça devient central dans la prophétie. Et on va revenir sur cette idée-là un petit peu plus loin, d'accord? Faites juste retenir ça. Et finalement, cette corne-là va s'en prendre directement au nom de Dieu, va s'attaquer au peuple de Dieu, va s'attaquer au temple, va chercher à arrêter même la pratique du sacrifice perpétuel qui était fait dans le temple. Et en bout de ligne, cette corne-là va être brisée comme tous les royaumes d'hommes qui l'ont précédée. Elle va être entièrement renversée. C'est simplement pour vous situer, pour que vous voyez un peu les personnages ou les choses qui apparaissent dans le récit. Comme on l'a dit la semaine dernière, on arrive dans cette portion où Daniel a besoin maintenant qu'on interprète pour lui. Il y a comme une espèce de, excusez-moi l'anglicisme, mais de shift qui s'est passé. Les premières visions étaient données à des rois non-juifs, à des rois païens, pour les aider à découvrir la grandeur de Dieu, pour les aider à prendre conscience que si les hommes vivent, construisent des royaumes, se bâtissent des empires, en définitive, il y a un Dieu suprême, un Créateur devant qui tous les hommes devront répondre un jour, et chaque royaume qui se bâtit sur la terre, même aujourd'hui, devrait prendre conscience, devrait réaliser que si l'homme vit, il vit parce que Dieu le lui permet. que si l'homme réussit, c'est parce que Dieu lui permet. Que si l'homme est prospère, il peut être fier de ses accomplissements, mais ultimement, il devrait toujours retirer sa couronne personnelle et venir la déposer aux yeux de Dieu. Et toutes ces premières visions-là étaient données à des rois païens. Daniel avait le privilège de venir les expliquer à ces rois-là. Et il est sorti des bouches de ces rois-là, des louanges incroyables à l'égard de Dieu, du Dieu suprême, du Dieu qui est au-dessus de tous les dieux que les hommes peuvent se donner. Maintenant, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est comme si Dieu maintenant vient prendre soin de son peuple et vient donner une perspective nouvelle à ceux qui marchent avec Dieu, donc à Daniel. Et donc, Daniel ne va pas être l'interprète. Daniel a besoin qu'on lui interprète ces songes-là parce que Dieu est en train de donner maintenant la perspective de ce qui concerne le peuple de Dieu dans ça. Qu'est-ce qui va arriver avec le peuple de Dieu dans ça? Est-ce que Dieu va vaincre à la fin de tout ça? Est-ce que Dieu va prendre soin des siens à la fin de tout ça? Et donc, c'est ce qui intervient ici, c'est ce qui se passe. Et par conséquent, Gabriel, tout probablement l'ange Gabriel, dont il fait référence ailleurs dans les Écritures, apparaît à Daniel et Daniel se retrouve vraiment dans la présence d'un être extraordinaire dans sa vision, puisqu'il va, comme ça se produit souvent lorsque des prophètes, des gens avaient des visions, étaient en présence d'êtres angéliques ou de Dieu lui-même, il tombe au sol. Il s'évanouit et il a besoin que Gabriel tende la main vers lui pour le secourir et le relever. Et voici ce que Gabriel va lui dire. Je suis rendu au verset 17, Daniel 8, 17. « Il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche je fus effrayé, je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Cette idée que Dieu regarde les royaumes d'hommes sur la terre, les pays actuels, les pays que nous, on connaît, le Canada, les États-Unis, les nations du monde, les plus puissantes, les plus petites, mais que Dieu est souverain et qu'en quelque sorte, Dieu véritablement préside à la destinée des hommes et même au destin des royaumes. Cette idée que Dieu observe les royaumes des hommes et à un certain moment donné, dans cette rébellion, consciente ou non, qu'ont les nations envers Dieu, à un certain moment donné, Dieu trace une ligne et il dit, « Ton règne est arrivé à son terme et maintenant tu vas tomber. » Cette idée-là est présente déjà beaucoup plus tôt dans l'Ancien Testament, dans des moments où Dieu va se servir du peuple d'Israël, par exemple, pour intervenir contre des peuples environnants. Et cette idée que la colère vient à terme, la colère de Dieu. Vous savez, souvent, on regarde la misère qu'il y a dans le monde, on regarde ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, puis souvent, les gens vont nous dire, « Mais si Dieu est là, où est-ce qu'il est? » Dieu est là. Dieu fait tomber des royaumes. Dieu fait tomber des nations arrogantes. Dieu trace une ligne dans le sable. Et je comprends, si vous n'êtes pas croyant, ça peut être étrange, toutes ces choses-là, d'accord? Mais cette idée que Dieu préside à la destinée des nations est omniprésente dans les Écritures. C'est là partout dans la Bible. Et donc, Dieu est en train de regarder actuellement les nations de la terre. De la même manière qu'il porte attention à chacune de nos vies individuelles pour voir si, personnellement, on va retirer cette couronne de mon petit royaume personnel puis je vais la déposer aux pieds de Dieu. De la même manière, il considère les nations de la terre. Et donc, ce que Gabriel apprend ici à Daniel, c'est qu'il dit, « Je vais t'annoncer maintenant. » Un moment où la colère va arriver à son terme et tu vas voir un royaume tomber, tu vas voir un royaume en supplanter un autre. Et c'est une des idées qui revient constamment dans les visions de Daniel, c'est que les royaumes d'hommes qui se bâtissent sur de l'arrogance, sur une quête de gloire personnelle, se supplantent les uns les autres. Une des idées dans la Bible, c'est que le mal est supplanté par le mal, par un autre mal qui suit après. Et donc, à quelque part, Et je pense que c'est une des leçons importantes des prophéties, des visions de Daniel, c'est que comme chrétiens, on est appelé à regarder la destinée des hommes et à comprendre ce cycle-là fondamental de l'histoire de l'humanité. Des hommes se bâtissent des empires, qu'ils le fassent à travers une démocratie, une autocratie, une dictature ou quoi que ce soit. Des hommes se bâtissent des empires pour leur gloire dans une grande mesure. Et ces empires-là sont supplantés par d'autres empires qui viennent après. Et à quelque part, ça me ramène tout simplement à la chute de l'homme, à cet orgueil premier de l'être humain qui disait « Non, Dieu, c'est moi qui vais bâtir les choses comme je le veux. » Et donc, on n'a pas à, comme chrétien, je n'ai pas à être effrayé de cette destinée-là des hommes. Il a été donné, il a été donné à Daniel dans cette vision de comprendre que les choses sont ainsi, et il est donné à ceux qui croient en Dieu, à ceux qui marchent avec Dieu, de comprendre que les choses sont ainsi. Et qu'à chaque fois que Dieu estime, Dieu décide de tracer une ligne et que la vanité d'un peuple est arrivée à son terme, cet empire-là va tomber. Il sera supplanté par un autre qui ne sera pas nécessairement meilleur. Puisqu'on attend ultimement le règne de Christ. Et le privilège qui est donné ici à Daniel, c'est tout simplement de pouvoir comprendre ces choses avec une limpidité absolument incroyable. On lit au verset 17 à 21. Il vint alors, je m'excuse, je vais aller un petit peu plus loin. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan ou les Grecs, l'Empire grec. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. C'est assez troublant parce que Dieu fait rarement ça dans les Écritures, nommer des choses, donner une prophétie et nommer littéralement des empires qui doivent venir. Mais il le fait ici, il le fait à quelques reprises dans les Écritures. C'est tellement précis comme prophétie que plusieurs ont voulu remettre en question, par exemple, la véracité de l'origine, dire que ces textes-là ont été écrits à l'époque de Daniel. Plusieurs ont voulu dire non. Le peuple d'Israël a été défait, ils ont été emportés, enlevés en déportation, exilés, et a posteriori, ils se sont reconstruits une histoire qu'ils ont écrite pour la voir comme eux autres voulaient la voir. Maintenant, lorsqu'on a fait les découvertes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des manuscrits de la Mer Morte, 1950 environ, ça a été une grâce que Dieu a fait, je dirais, aux hommes de pouvoir faire cette découverte-là. Un berger, vraiment par accident, découvre une caverne. Je ne suis pas en train d'inventer des choses, cherchez ça sur le web. D'accord? Et puis pendant une dizaine d'années, on a commencé à extraire toutes les découvertes qu'il y avait là, et ça a pris plus de 20 ans pour pouvoir commencer à étudier sérieusement ces manuscrits-là, tout simplement parce que vous avez des papyrus qui sont roulés depuis... certains des manuscrits remontent à près de 2000 ans, d'accord? Et donc, au moment où tu commences à les toucher, tout ce qui risque de se passer, c'est que ça tombe en poussière, d'accord? Alors, il y a des personnes, des experts qui se sont dédiés tout simplement, je l'ai déjà raconté, j'ai déjà expliqué brièvement ici à l'église, mais à prendre ces rouleaux-là et puis les trancher en fines lamelles pour pouvoir les déposer lamelle après lamelle et puis ensuite de ça, prendre des photos, les rendre disponibles. Puis aujourd'hui, avec l'information qu'on a, on peut avoir accès à beaucoup d'informations, même des photographies de ces manuscrits-là directement. On peut aller les voir dans des musées. Mais un des grands privilèges qu'on a eu avec ça, c'est que ça nous a permis de trouver des manuscrits qui remontaient beaucoup plus loin. Nos plus vieux manuscrits, lorsqu'on parle d'un manuscrit, c'est une copie d'un texte biblique, d'accord? Nos plus vieux manuscrits des textes bibliques n'étaient pas si vieux que ça pour l'Ancien Testament. Et lorsqu'on a fait cette découverte-là, on a fait un saut au moins de 500 ans dans le passé. Et donc, ça nous a permis de confirmer une datation beaucoup plus ancienne pour la rédaction du livre de Daniel à l'époque de Daniel. D'accord? Et ça, c'est super important. Parce que Gabriel est tellement précis dans son interprétation ici, c'était fort tentant de dire, écoute, ça se peut pas. Ça ne se peut pas qu'ils aient annoncé d'avance ces choses-là, c'est impossible. Ils ont écrit cette histoire-là plus tard pour se dire que leur Dieu était puissant, puis qu'ils avaient un Dieu qui voyait l'avenir, d'accord? Mais donc, avec beaucoup de précision, ces royaumes-là qui vont venir, le royaume des Mèdes et des Perses, et ensuite de ça, le royaume des Grecs qui va venir, ont été annoncés, et ces choses-là devaient arriver. Daniel ne les a pas vues, d'accord? Il n'a pas vu toutes ces choses-là se réaliser. Le passage nous parle, je veux éclairer quelque chose dans notre compréhension puis dans notre expérience chrétienne. Le passage parle d'une vision d'un temps de la fin, d'un temps qui sera la fin, d'un temps qui sera leur fin. Au verset 17, « Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, je tombai sur ma face. Et il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Souvent, lorsqu'on lit dans les Écritures cette notion-là des temps de la fin, plusieurs de ces passages-là font référence explicitement au retour de Jésus-Christ, d'accord? Donc, on peut lire ça, puis à chaque fois, se dire, OK, on est en train de pointer au retour de Christ. On est vraiment à la fin des temps. Mais clairement, dans ce passage-là, à cause de l'explication de Gabriel, il s'agit d'un temps de la fin d'un royaume, puis d'un autre royaume. Parce qu'on sait de quel royaume il s'agit. Celui des Mèdes et des Perses, celui des Grecs. Et donc, j'aimerais vous dire ceci sur l'expérience que les chrétiens ont avec l'eschatologie. Quand on étudie la fin des temps, les prophéties, les livres apocalyptiques, tout ça, on parle de la doctrine ou de l'étude de l'eschatologie. La connaissance de la fin des temps, des choses de la fin. Dans notre étude de toutes ces prophéties-là, l'Église a vécu à travers 2000 ans, d'accord? Depuis que Jésus est venu, l'Église a vécu à plusieurs reprises. Je vais le dire comme ça, d'accord? Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. Je pense que ça se défend très, très bien avec des passages très clairs comme celui-là. L'Église a vécu à plusieurs reprises des temps de la fin. Et donc, si vous aviez vécu, et peut-être certains d'entre nous ont vécu, même pour en être conscients, mais la Deuxième Guerre mondiale, et au fur et à mesure que l'horreur de cette deuxième... Si vous étiez en Allemagne à ce moment-là, et que vous étiez un chrétien qui commençait à comprendre tout ce qui était en train de se passer là, je vous assure que vous pouviez dire que vous étiez en train de vivre les temps de la fin. Et c'est pour ça que je parlais la semaine dernière de l'idée que lorsque tu es dans le genre apocalyptique, il y a souvent un accomplissement littéral immédiat ou dans un avenir proche ou dans un avenir très éloigné, mais un accomplissement très littéral de ce qui va se passer. Mais ceci n'empêche pas, et bien souvent on voit que c'est le cas, que cette image-là, cette prophétie-là va avoir plusieurs accomplissements avec une espèce de cycle répétitif qui fait que c'est normal pour les chrétiens à travers l'histoire à la fois d'examiner les signes des temps, de lire les signes des temps et de lire à travers ces signes-là que la fin est imminente. Et Dieu, qui est infiniment sage, sait que c'est la seule bonne manière de vivre la foi chrétienne. La seule bonne manière de vivre la foi chrétienne, c'est de vivre à chaque jour comme si le retour de Christ était imminent. C'est la seule bonne manière. Et donc, à travers son histoire, à travers l'histoire de l'humanité, les chrétiens qui traversent les âges dans différents pays, je le dirais comme ça, d'accord, ont vécu à plusieurs reprises les temps de la fin. Un de mes profs préférés de théologie, je l'ai dit la semaine dernière, mais je le répète, et oui, j'aimerais que ça rentre. Monsieur Keefe me disait, lorsqu'on parlait d'eschatologie, il disait, Yannick, il y a des signes qui sont clairs dans la Bible. Et à plusieurs reprises à travers l'histoire de l'humanité, toutes les cartes se plaçaient pour qu'on dise, c'est sûr, c'est imminent. Et puis Dieu intervenait dans sa souveraineté, rebrassait toutes les cartes. Puis on était reparti pour 500 ans. Alors, si vous venez me voir puis vous me dites, Yannick, plus que jamais, Toutes les cartes sont en place. Amen. Je suis d'accord avec vous. Non, mais Jésus revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Ça fait 2000 ans qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. J'espère qu'à tous les jours, tu te lèves le matin puis tu regardes ton agenda puis tu dis « Right on, man, tu peux revenir. Moi, je suis en train de faire ce que je suis supposé faire. » Et de moi, vous n'aurez jamais quelque chose de plus précis que ça. Parce que je pense que c'est comme ça que Dieu nous demande de le vivre. Et donc, dans ce cas-là, les temps de la fin de deux royaumes ont été annoncés à Daniel. De manière très claire, se sont réalisés de manière très concrète, en fait, de manière assez abominable. Et apparaît dans ce récit-là un personnage qui, pour moi, est une figure, est un type d'un autre personnage qui va venir plus loin. Je l'ai appelé, en fait, son nom, c'est un personnage historique. Je crois que c'est lui. On n'a pas de preuve parfaite. Dans ce cas-là, on n'a pas de nom dans le texte prophétique. Antiochus Épiphane, un roi grec. Et je crois que c'est une figure de l'Antéchrist. Je crois que c'était clairement un Antéchrist, mais qui annonce de pires Antéchrists encore. Au verset 9 à 12, on lit « De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi et vers l'Orient, et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. » Et tout à l'heure, j'ai commencé ce commentaire-là, puis je vais être bref là-dessus. Mais dans le récit de toutes ces nations, il y a une espèce de focus point qui est en train de se faire ici, où on a, j'ai juste des mots en anglais, une espèce de zoom qui est en train de se produire, un agrandissement, puis on fait une plongée. Vous connaissez Google Earth? On fait une plongée, tout d'un coup, on est dans une région très, très large, puis tout d'un coup, on descend sur Jérusalem à toute vitesse, boum, 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 puis le focus est là. Parce que de temps en temps, dans l'histoire de l'humanité, il y a de ces rois qui non seulement ont l'ambition de se bâtir un royaume d'hommes, mais ont l'ambition de se bâtir un royaume divin. Et donc, de cet empire grec, à un certain moment donné, après la mort d'Alexandre le Grand, le royaume a été divisé en quatre plus petits royaumes. C'est l'histoire qui nous raconte ça. Et l'un d'entre eux, c'était Séleucus. Séleucus est décédé et son fils, Antiochus IV, a pris le pouvoir à ce moment-là, a été mis en place. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, on parle de 175 avant Jésus-Christ, Antiochus a pris un titre, a ajouté un titre, il a dit « Je ne serai pas Antiochus IV, je vais être Antiochus Épiphane. » Alors, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du Québec, il y a des villes, hein, Épiphanie, vous connaissez ça? Une manifestation, une épiphanie, c'est quoi? C'est une manifestation de Dieu. Et donc, ce roi-là s'appelait Antiochus IV, l'illustre roi Dieu glorieux. Il voulait que lorsqu'on le rencontre, on le voit comme une incarnation, une apparition même de Dieu. Ce roi-là était extrêmement ambitieux, voulait conquérir toute l'Égypte et donc a rapidement fait la conquête de la Palestine pour se rendre jusqu'en Égypte. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, a commis des abominations en Palestine, à Jérusalem, très rapidement, il a enlevé le souverain sacrificateur de là et puis il a mis quelqu'un en place. S'est pris de haine contre les Juifs directement. Il est raconté qu'en 3 jours, 40 000 Juifs ont été mis à mort et donc a commis des choses abominables, a décidé de faire un sacrifice avec un porc. Si vous n'avez pas de connaissance vraiment de l'Ancien Testament, il y a cette idée dans les Écritures pour les Juifs. Certains animaux étaient purs et d'autres impurs. Le porc était un animal impur que le Juif ne mangeait pas et qu'il ne sacrifiait certainement pas dans le temple. Et donc, rapidement, ce que lui a fait, c'est qu'il a pris un porc, il a rentré dans le temple, pouf, il a fait un sacrifice avec un porc. Il a mis ces choses-là très, très claires. Continue ses conquêtes, réussit pas à faire la conquête comme il voulait en Égypte. Frustré de ça, revient vers Jérusalem et décide de jeter toute sa colère, toute sa frustration sur Jérusalem. Les abominations se multiplient à ce moment-là, se met à massacrer les Juifs qui célèbrent le sabbat, interdit le sabbat, par la loi, oblige la consommation des viandes impures à Jérusalem, décide de placer à l'intérieur du temple de Jérusalem une statue du roi Zeus, d'accord, à l'intérieur du temple et commence à pratiquer des sacrifices humains. C'est pas la Bible qui nous raconte ça, ce sont les archéologues, les historiens qui nous racontent ça, d'accord? Et donc, vous avez ce roi-là, qui était un homme, dans le fond, avec aucune grandeur d'âme, d'accord? C'était un homme extrêmement petit, mais profondément orgueilleux, et qui, dans ses rêves de grandeur, il ne lui suffisait pas de rêver de conquérir les hommes, il voulait conquérir le royaume de Dieu. Il s'en prenait directement au nom de Dieu et s'en est pris aux Juifs, d'accord? Et c'est dans cette période-là que Judas Maccabée, pour ceux qui connaissaient l'histoire, Judas Maccabée, un Juif, vous pouvez aller lire, trouver les livres des Maccabées dans... Cherchez-les sur Internet si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque, dans une Bible catholique, tout ça. Cherchez-les sur Internet, vous pouvez aller lire ça, c'est passionnant. Ce sont vraiment des héros historiques super importants pour les Juifs. Antiochus Épiphane va mourir à peu près dans cette période-là, alors que Judas Maccabée est en train de conduire des révoltes nationales, puis en train d'essayer de se débarrasser de toutes ces abominations-là qui se font en Israël. Antiochus Épiphane va mourir dans des violences assez atroces, mais on ne connaît pas vraiment la cause, peut-être une maladie, tout ça. Il va décéder et Judas Maccabée va vraiment devenir un héros national. Tellement important, on a une image ici d'une famille qui célèbre la Hanouka. Vous avez déjà vu ça? Cette fête-là, la fête des Lumières, c'est une fête en l'honneur de cette période-là et de Judas Maccabée, parce que l'histoire raconte que le chandelier dans le temple, alors même qu'il y avait toutes les abominations qui étaient en train de se faire et que Judas Maccabée était en train de conduire une révolte nationale, les chandelles ne se seraient pas éteintes pendant cette période-là. Et donc, en mémoire de Judas Maccabée, les Juifs fêtent la Hanouka chaque année, d'accord? C'est donc un personnage vraiment important dans l'histoire des Juifs. Mais cet homme-là, Antiochus Épiphane, pourquoi est-ce que je dis que dans cette prophétie-là, c'est Antiochus Épiphane? C'est tout simplement parce que c'est la conclusion du royaume des Grecs et Gabriel a donné l'interprétation. Dans le passage de la semaine dernière, dans la vision de la semaine dernière, on avait vu une corne qui apparaissait qui, selon toute probabilité, est plutôt ce qu'on trouve à la fin de l'Apocalypse, l'image d'un antéchrist ultime qui va s'opposer à Dieu. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit dans cette prophétie-là, on est à la toute fin de ce royaume-là, mais en même temps, Antiochus Épiphane est une figure, cette corne-là est une figure de ces antéchrists qui ont des caractéristiques. Ils s'en prennent au nom de Dieu. Il y a une espèce de haine viscérale en eux qui fait qu'il ne leur suffit pas de régner sur les hommes. Ils veulent s'en prendre au nom de Dieu. Il y a cette rébellion profonde qu'il y a en l'homme de vouloir dire à Dieu, non seulement tu m'as donné la vie, mais je ne te dois rien. Et c'est moi qui prends le contrôle de ma vie. Ces êtres-là veulent redéfinir toute notion de vérité. C'est pour ça, si vous venez me voir et vous me dites, « Oui, mais Yannick, les cartes des temps de la fin, avec toutes ces choses fondamentales sur ce qu'est un être humain, puis on révise tout ça, puis on essaie de redéfinir ce que c'est un être humain, c'est évident qu'on est dans les temps de la fin. » Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des pensées qui se logent et on veut tout redéfinir ce qu'est l'homme, on veut tout redéfinir ce qui est le bien, ce qui est le mal. Il n'y a plus rien qui tient dans une certaine mesure en Occident. Et c'est vrai que ce sont des signes d'un royaume qui est antéchrist, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc, dans une certaine mesure, je crois que cet Antiochus Épiphane, sans être l'ultime antéchrist, est une figure de ces antéchrists qui vont venir et de celui qui viendra à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'un chrétien fait dans ce temps-là? Comment est-ce qu'on, Comment est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Allez à la toute fin du passage, s'il vous plaît. Parce que je crois que c'est extrêmement précieux. On peut faire beaucoup de choses avec les livres prophétiques, on peut faire beaucoup de choses avec les apocalypses dans la Bible. Voici ce que Daniel a fait avec ça. Au verset 26, « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, tellement il était bouleversé de ce qu'il voyait, de ce qui était annoncé, des horreurs. » Vous comprenez que il est tout près, je l'ai dit la semaine dernière, il est tout près de la fin des 70 semaines. Le prophète Jérémie avait dit que l'exil durerait 70 ans. On est tout près de la fin, on va voir ça la semaine prochaine davantage. Et donc Daniel espère que c'est la fin de la souffrance pour le peuple d'Israël. Et là, dans cette vision-là, il apprend que le temple, le blasphème va être fait là, d'accord? Complet, avec un niveau d'abomination qu'il n'avait même pas vu encore. Il en tombe malade. Il est bouleversé intérieurement. Puis je me levai et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. J'ai dit au début de l'exposé, ceux qui marchent avec Dieu, qui lisent la Bible, qui apprennent à comprendre la Bible, ont ce privilège-là de connaître la destinée des hommes, au moins en partie. C'est vraiment un privilège extraordinaire qui est à la fois effrayant, puis en même temps rassurant, de savoir que Dieu préside à la destinée des hommes. Dieu est là, Dieu règne, Dieu est souverain. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, Dieu est souverain. Et je crois que ces choses-là nous sont données pour qu'on les garde dans notre cœur, pour qu'on vive à chaque jour comme si c'était maintenant que Jésus s'en venait, aujourd'hui. Et donc, si pour toi, il y a quelque chose d'effrayant dans tout ce qu'on lit là, peut-être que Dieu est en train de t'inviter à vivre aujourd'hui comme si Jésus revenait. Peut-être que c'est ta journée où tu vas retirer ta couronne personnelle, tu vas venir la déposer au pied du roi des rois et tu vas dire, « Seigneur, je veux vivre pour toi. Je ne veux pas vivre comme ces rois, comme ces hommes qui vivent sans Dieu. Non, je veux vivre chaque jour en honorant Dieu, en reconnaissant qu'au-delà de tout ce que je peux construire avec ma vie, il y a un Dieu qui est dans les cieux. » Peut-être que c'est ta journée où tu vas prendre conscience de ça. Et pour nous qui sommes chrétiens déjà, je crois qu'on est appelé à serrer ces choses-là dans notre cœur. Ça nous conduit dans la prière. Ça nous trouble par moments lorsqu'on lit l'actualité. On lit les temps, puis on dit, « Oh là là, il y a de la souffrance qui s'en vient en avant. » Puis on lit des histoires où les chrétiens sont vraiment maltraités dans certains pays. On n'a rien vu encore. Alors, d'une part, je pense qu'on est appelé à garder ça dans notre cœur, à le porter dans notre cœur, à être attentif. Attentif à ce qui se passe dans le monde. Je l'ai dit dans la dernière année, j'ai beaucoup insisté sur ça et je vais terminer avec ça ce matin. Je trouve que c'est extrêmement tentant à notre époque pour l'être humain, spécialement en Occident, avec toute l'information qu'on a, de se replier sur nous-mêmes puis de décrocher comme de l'actualité internationale. Parce qu'il y a un sentiment d'impuissance incroyable devant tant d'êtres humains qui souffrent sur la terre. C'est tentant à quelque part de dire, « Garde, c'est trop tout ça, je vais vivre ma petite vie. » Puis on voit des gens qui, à mon avis, à moi, ont le courage de continuer à lire l'actualité. Ont le courage de continuer à garder les yeux ouverts sur le monde, même avec la douleur que ça apporte de voir ça, cette souffrance-là. J'ai la ferme conviction que les chrétiens sont ceux qui ont le plus de raisons pour rester à l'affût de tout ce qui se passe et être attentifs. Avec les souffrances que ça comporte dans notre cœur, parce que ces souffrances-là, on est appelé à les porter au nom de Dieu dans la prière. Qu'est-ce que Daniel a fait après qu'il y ait eu toutes ces grandes visions-là? Il a pris le temps d'encaisser le choc, il a été malade quelques jours. Puis il s'est levé, puis il est allé s'occuper des affaires du roi. Daniel a sorti son agenda, puis il a dit, « Ça va aller mal. Qu'est-ce que je fais demain? » Ce que j'avais prévu faire avant d'avoir la vision. Simplement, je vais servir Dieu fidèlement là où je suis. On a commencé la série en disant « Babylon Home Sweet Home » parce que très tôt dans le livre de Daniel, on voit que Dieu accompagne Daniel et même si Daniel est en exil, il peut marcher avec Dieu, il peut persévérer, ça va être difficile, mais il peut le faire. Et parce que Daniel sert le Dieu suprême, même s'il n'est pas chez lui, à quelque part, il est toujours chez lui parce que Dieu est souverain, Dieu peut le protéger, Dieu peut bénir son témoignage. On a vu lorsqu'on est arrivé dans cette portion-là des visions en même temps que Babylon is not home sweet home. Daniel n'est pas chez lui parce qu'il vit dans un royaume d'hommes. Il vit dans un royaume d'hommes et il attend le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que fait celui qui comprend, a une compréhension au moins partielle des choses à venir, de la destinée de l'humanité? Qu'est-ce qu'il fait? Il sent ça dans son cœur, il est attentif à ce qui se passe, et simplement, matin après matin, il se lève et il sert Dieu humblement, selon son appel. Es-tu appelé à servir un roi païen? Va le servir. Es-tu appelé à être préposé aux bénéficiaires? Continue à faire ton travail. Es-tu appelé à être à la maison, à prendre soin de tes enfants? Continue à le faire. Es-tu appelé à être professeur d'école dans un contexte où tu dis, mais si tu savais qu'est-ce que je dois enseigner, ça n'a pas rapport. Continue à le faire. Simplement, jour après jour, je prends mon agenda puis je dis, Seigneur, je vais aller te servir demain selon mon appel. Fidèlement, fidèlement, fidèlement. Si ce matin, on ouvrait votre agenda, puis on regardait la semaine qui s'en vient, est-ce que vous seriez en paix à dire, « Seigneur, je vis chaque jour comme le dernier pour toi et je te sers simplement. » On va prier. Père éternel, je te prie de venir continuer à parler à nos cœurs à travers ces visions vraiment incroyables, impressionnantes, troublantes, Seigneur. De temps de la fin. Le temps où il y aura encore à venir de la souffrance pour le peuple de Dieu, pour les hommes en général, Seigneur, parce que des empires et des royaumes d'hommes vont se bâtir et se supplanter l'un après l'autre, Seigneur. Et Daniel, à travers cette vision, nous rappelle qu'on attend en réalité ton retour, Jésus-Christ, qu'on attend le moment où un roi juste et saint règnera au milieu de nous, Seigneur. C'est ça qu'on attend. Je prie, Père, pour les chrétiens partout dans le monde qui vivent actuellement dans des pays où, je pourrais le dire comme ça ce matin, Seigneur, un antéchrist est en train de diriger le pays et a décidé qu'il allait éliminer les chrétiens de la place. Aie pitié d'eux, Seigneur. Fortifie-les dans leur foi, ô Dieu. Aide-les à avoir le courage et la foi de Daniel et de ses amis. Bénis leur témoignage au quotidien, Seigneur. Aide-nous, Père, comme chrétiens, à vivre chaque jour comme John Wesley le faisait, avec la conviction que son agenda, déjà prêt pour demain, est dévoué à te servir humblement. Aide-nous, Seigneur, à faire comme Daniel, à se lever et à entrer dans notre appel, tout simplement, à te servir, Seigneur, avec cette conscience profonde que tu règnes sur la destinée des hommes. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.